Iggy Pop et Léo Ferré quand ils chantent les poètes ou les anarchistes. On ne fait pas de projets d'avenir. Les projets, c'est pour ceux qui n'ont pas de présent. Quand le présent vous comble, pourquoi aller chercher demain ce qui s'accomplit pleinement chaque jour? L'avenir, ce sera le mois d'août, quelques jours dans le sud de l'Italie. On ira peut-être à moto voir des copains qui ont acheté une maison dans le Berry, avec qui l'on passera des soirées entières à se dire qu'un autre monde est possible. Gaël partira faire de longues balades en moto. Et, comme toujours, Sybille aura peur, malgré la confiance qu'elle a en lui. Elle a parfois fait des conneries avec lui. La moto à plus de 200 à l'heure sur l'autoroute et le périphérique parisien. La musique dans le casque, la voix de Bowie ou celle de Jagger. Elle n'a pas peur de son comportement à lui. Elle a une totale confiance. Mais elle redoute quelque chose qu'il pourrait ne pas voir venir. Une flaque d'huile, un camion. Elle est inquiète. Elle l'a toujours été. Elle raconte que ça vient de ses parents. Les immigrés se sentent seulement tolérés quand ils arrivent quelque part. On finit par s'inquiéter du simple fait de respirer. L'avenir, on n'en parle pas, on le connaît. On aura des enfants, on quittera Paris pour vivre soit à l'étranger, soit dans une ville de taille moyenne ou grande, Bordeaux ou Nantes, pourvu qu'elle soit proche de la mer ou de la montagne. Mais on ne se fixe aucun but, on a trop de choses en cours. Gaël doit réaliser un film en Inde dans quelques semaines, un documentaire sur la couleur et les fêtes qu'on y consacre dans la tradition hindouiste. Il y travaille, comme Sybille a fini de travailler à son roman. Elle l'avait complètement laissé tomber depuis 2 ans, mais un jour, elle l'avait fait lire à Gaël, qu'il avait tellement aimé, ce livre, qu'il n'avait pas voulu entendre son idée à elle de ne pas avoir le temps de le terminer. « Mais il est terminé », disait-il. Et il l'était. Il fallait encore couper des scènes, supprimer quelques personnages, régler des problèmes de tension dramatique, mais bon, c'était terminé, l'histoire d'une poignée d'heures. Elle l'avait fini sans y croire, et lui insistait. « Ok, je ne lis pas de roman, mais si tous les livres étaient aussi bons que le tien, je m'y mettrais. » Elle souriait. Pensait qu'il était juste amoureux, que sa lecture et ses encouragements étaient le fait d'un homme aveuglé par ses sentiments. Mais cependant, il lui avait fait des remarques judicieuses, notamment sur certaines longueurs. Elle l'avait écouté sans trop y croire, et puis voilà, le livre était fini. C'est le début de l'été 1995. Gaëlle refuse d'aller poster les enveloppes qui contiennent le manuscrit. Non, pas question. Je vais la porter aux éditeurs en main propre. Elle accepte. Elle fait une liste des principaux éditeurs chez qui elle aimerait voir son livre publié. Mais elle le fait en tremblant. Ce n'est pas elle qui fait les photocopies du tapuscrit. Pas elle non plus qui rédige la lettre de présentation. Pas elle qui va à la papeterie acheter de grandes enveloppes de papier kraft. Pas elle enfin qui met chaque exemplaire dans les enveloppes. Elle se sent indigne et n'accepte que pour ne pas le décevoir, lui, pour ne pas décevoir son optimisme, son enthousiasme. Elle lui répète « ça ne marchera jamais ». Et puis parfois t'imagines qu'ils disent oui, qu'il en ait un pour dire oui. Et il répond inlassablement « j'y connais rien, mais s'ils disent non, c'est des cons ». Il rit, boive, elle repart travailler et lui fait ce qu'il a à faire. Alors quand les éditeurs répondent en téléphonant « oui, c'est formidable, votre livre, c'est formidable, je voudrais vous rencontrer, passez nous voir, mademoiselle », elle reste sidérée. Elle prend des livres dans sa bibliothèque et regarde les noms de Marcel Proust et de Patrick Modiano en imaginant son prénom et son nom à elle, Sybille Hosokin, sur la couverture au liseré rouge. Les noms de Marguerite Duras et de Samuel Beckett sur celle au liseré bleu. C'est vertigineux, tellement vertigineux. Elle a très honte de cette pensée prétentieuse. Elle se répète « mais pour qui tu te prends, ma fille? Pour qui ?» Et elle pense à ses parents qui ne savaient pas écrire le français, à ses grands-parents qui ne le parlaient pas du tout. Elle ne savait pas qu'être heureuse pouvait remuer autant, ni que la joie et la douleur pouvaient être aussi proches. Benoît n'arrive au Kirghizistan qu'une semaine après que Samuel l'a appelé. On s'est parlé sur Skype. Samuel avait l'air paniqué. Il a parlé de l'accident. Il était confus et désespéré. Benoît n'a pas tout compris, seulement qu'il devait venir, que Sybille avait encore fait des siennes. Et il n'a pas souri ouvertement devant Samuel, même par écran interposé. Il s'est retenu. Il a fait attention à ne pas trahir une mauvaise pensée. Il ne voulait pas que son fils pense qu'il était cynique, triomphant, que son fils